les jardinières.
Salut à tous, bienvenue dans les jardinières et c'est avec un très grand plaisir que je suis accompagnée ce matin de ma petite jardinière Sarah, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Encore un week-end où l'été est attendu, entre séances, bronzage et sieste sur la terrasse, pourquoi ne pas s'atteler au jardinage? Ça tombe bien, on profite de la fraîcheur matinale pour parler jardin en compagnie de Catio Racine, jardinière à Delémont. Bonjour Catio.
Bonjour.
Nous sommes le 9 juin 2018 et on l'est. Ce mois de juin, les fleurs sont sorties, les cerises commencent à rougir et les champs sont verdoyants. Ce week-end est définitivement propice aux activités en plein air, comme le jardinage. Que faire en ce moment au jardin? Comment prendre soin de nos plantes quand il fait chaud? Que récolter dans notre potager? On vous donne plein de conseils et on répond évidemment à toutes vos questions avec Catio Racine.
Des questions que vous pouvez lui poser en direct et vous avez le choix entre plusieurs moyens. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Catio Racine vous répondra personnellement. Et si votre voix est encore un peu fatiguée ce matin, pas de souci, vous pouvez opter pour le SMS en envoyant le mot jardin, un espace suivi de votre question, le tout au 939. Et il existe également le formulaire internet que vous trouverez sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que Catio Racine puisse développer sa réponse au maximum.
Eh bien, tout est dit, les jardinières, c'est parti.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Noémie a reçu un bonsaï ficus, on présume, en mars dernier, mais elle ne sait pas quand l'arroser ni quand le tailler. Est-ce que vous pouvez l'aider, Catio?
Oui, bien sûr. Pardon. Le bonsaï ficus, c'est un des bonsaïs d'intérieur. Donc évidemment, il faudra qu'il reste à l'intérieur et surtout pas le mettre dehors parce que là, c'est la mort assurée. C'est un des bonsaïs les plus faciles pour autant qu'on ne le déplace pas trop. Donc c'est-à-dire qu'au départ, il faudra vraiment qu'elle le pose à la place où elle pense qu'il sera le mieux dans son appartement ou dans sa maison. Mais il faut juste faire attention qu'il y ait suffisamment de lumière. Et puis qu'il n'y a aussi pas de courant d'air quand on ouvrira la fenêtre. Même en été, même s'il fait très chaud, quand il y a des courants d'air parce qu'il y a un petit peu de vent, les ficus n'aiment pas du tout ça. Donc là, c'est déjà la première chose à faire, de trouver un endroit qui lui convient bien et après de ne surtout plus le déplacer. Les ficus ont horreur d'être déplacés souvent. On peut le faire une fois, mais après, il faudrait arrêter. Et puis l'arrosage, c'est plutôt comme les orchidées. On ira plutôt le baigner, vu que le bonsaï, est dans un pot qui est en général très bas. On va le faire baigner une demi-heure, trois quarts d'heure, une à deux fois par semaine, selon la température de l'intérieur de la maison, selon la saison. Mais c'est un petit peu à regarder finalement, de le laisser bien sécher, parce que le ficus n'aime pas être toujours humide. Donc on le baignera, on le laissera bien s'égoutter sur le bord du lavabo ou à un autre endroit, peu importe. Et ensuite, on surveillera au début, le temps qu'on s'habitue à cette nouvelle plante, comment est-ce qu'il sèche. Donc voilà, s'il est derrière une véranda ou en retrait d'une véranda, il séchera beaucoup plus vite que s'il est dans un salon où il n'y a qu'une fenêtre, par exemple. Et puis après, la taille, ça, on peut faire toute l'année, vu que c'est des plantes d'intérieur, donc elles n'ont pas de phase de repos. En fait, elles sont en végétation toute l'année. On taillera la forme qu'on veut lui donner, en fait. C'est-à-dire que si ce ficus bonsaï donne de grandes pousses, quand je dis grandes, ce sera peut-être 5-6 cm, hein, ce ne sera pas 20 cm.
C'est un bonsaï.
Voilà, exactement. Donc là, on viendra tailler en tout cas les deux tiers et on s'arrêtera toujours en dessus d'une feuille parce que c'est à la connexion de la feuille et de la tige qui repartira une nouvelle pousse. Donc là, après, on peut vraiment lui donner la forme qu'on veut, si on veut plutôt qu'il soit très plat ou qu'il soit très rond, c'est vraiment à la personne de tailler là où elle veut. Mais c'est clair qu'on est obligé de toujours tailler quand il vient des nouvelles pousses parce que sinon, il va reprendre ses droits. Donc il va revenir avec des plus grandes feuilles, une plus grande taille.
Les ficus, les bonsaï ficus, il peut y avoir de plusieurs tailles, hein. Ils sont parfois assez grands quand même.
Oui.
Donc là, quand on doit les baigner, est-ce qu'on enlève, donc on enlève le pot et puis on met directement l'eau dedans, puis on attend que ça sèche, en fait, c'est ça?
Alors, dans un plus grand, non, il faudrait presque trouver une bassine ou faire ça dans la baignoire, parce que le problème qu'il y a, c'est que si on enlève le pot, la terre, malgré qu'il y a les racines qui la tiennent, la terre va tomber, et puis à force de le sortir une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines, au bout d'un moment, il n'y aura quasiment plus de terre, donc il va beaucoup souffrir de cette opération plutôt que d'avoir du bienfait.
Vous nous avez dit que le bonsaï a besoin de lumière et surtout pas de courant d'air. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs où on voit qu'il est dans un endroit où ça lui fait du mal ?
Alors, il va perdre ses feuilles, en fait. C'est vraiment spécifique au ficus, en fait, les courants d'air. C'est vraiment une plante qui n'aime pas ça. Et quand il a un problème, quel qu'il soit, il va commencer de perdre ses feuilles à peine qu'on les fleure, ça tombe. Et puis ça, c'est vraiment typique du courant d'air. Après, on va aussi voir, par exemple, si les fleurs jaunissent, les feuilles jaunissent, pardon, qu'il a trop d'eau. Donc là, c'est vraiment des petits trucs. Et c'est vrai que les plantes, il faut les observer quand même très souvent pour voir ben, qu'est-ce qui se passe, quoi. Comme on ferait avec un enfant, on se dit, ah ben tiens, les yeux qui brillent, il a sûrement de la fièvre. Et quand on regarde ses plantes, on se dit, non, mais tiens, là, il y a un truc qui ne se passe pas, ça ne joue pas. Et puis là, on peut voir à peu près ce qui se passe. Mais ce symptôme de courant d'air, c'est vraiment les feuilles qui restent vertes, mais qui tombent.
Vous m'aviez conseillé à l'époque, parce que j'avais un bonsaï ficus et qui avait séché, et puis vous m'aviez conseillé de couper pour voir donc à l'intérieur s'il était encore vert.
Oui.
Donc ça, c'est vraiment la chose à faire si on voit que le ficus commence à sécher.
Exactement. S'il perd toutes ses feuilles et puis qu'il n'y a plus vraiment que le branchage, on peut... La première chose à faire, ça serait déjà de gratter un petit peu l'écorce à la base, au tronc, pour voir qu'est-ce qu'il y a dessous, sous la première couche d'écorce. Si c'est encore vert, ben c'est qu'il se passe encore quelque chose. Et après, on monte, on fait la même chose. Et au moment où c'est qu'on arrive dans du brun, ça veut dire que c'est mort. Donc ça, il faut couper.
Nous avons reçu une question concernant un poirier. J'ai un poirier et les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes et le bout des nouvelles pousses baisse. Alors, à quoi cela est dû ? Est-ce que ça peut être une maladie du poirier ?
Non, quand les feuilles s'enroulent sur chaque plante qu'on peut avoir dans notre jardin, c'est qu'il y a du puceron. Donc voilà, le puceron en fait se mettra plutôt sous la feuille et vu que le puceron est un piqueur, il va avec sa minuscule trompe piquer et à force de piquer dessous, ben, automatiquement la feuille s'enroule à l'envers, c'est-à-dire qu'elle se referme. Et si on ouvre ses feuilles, on va constater que c'est plein de pucerons dedans. Donc c'est vraiment le puceron qui fait cette action d'enrouler les feuilles.
Comment on peut se débarrasser de ce puceron alors ?
Alors, il existe de nombreux traitements, qu'ils soient bio ou chimiques, qu'on peut acheter dans le commerce. Mais la première chose à faire, c'est de remarquer ou de regarder si éventuellement il y aurait peut-être des fourmis qui montent à l'arbre. Pourquoi ? En général, quand il y a du puceron sur un arbre, quel qu'il soit, les fourmis vont aller entretenir ce puceron. Pourquoi ? Parce qu'il fabrique du miel, en fait, le puceron. Tout le monde sait que le puceron, ben, quand on touche une feuille, ça colle. Donc, le puceron fabrique du miel. La fourmi, c'est la bonne affaire pour elle. Donc, elle va aller récolter ce miel et en plus elle va entretenir, elle va caresser le puceron avec ses antennes pour le stimuler encore à produire plus. Donc la première chose à faire avant de traiter, c'est d'éradiquer la fourmi. Et on peut très bien faire ça, on trouve dans le commerce des bandes autocollantes qu'on peut mettre à la base du tronc. C'est purement mécanique et quand la fourmi monte, eh bien, elle reste collée dessus. Donc là on fait déjà le 50% du travail et après on peut passer au traitement.
Merci beaucoup Cathy Racine, je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Vos questions, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous les poser au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute jusqu'à 8h, donc directement pour poser votre question à Cathy Racine. Vous pouvez également utiliser le SMS, donc vous prenez un nouveau message, vous notez le mot jardin suivi de votre question et vous envoyez le tout au 939 où vous pouvez utiliser également le moyen qu'a utilisé Marie-Louise de Basse-Cour, utiliser le formulaire qui se trouve sur notre site internet.
7h, 8h, les jardinières.
Marie-Louise de Basse-Cour a une question pour vous, Cathy Racine. Quel moyen naturel pour se débarrasser des doryphores et que faut-il faire pour les années à venir pour les éloigner du jardin potager ?
Alors, le doryphore, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est une bestiole qui est très très connue chez nous, c'est un coléoptère qui va faire des ravages sur les pommes de terre, c'est-à-dire qui va manger, dévorer, on va dire, les feuilles des pommes de terre et qui empêcheront en fait le bulbe de la pomme de terre de se développer. Donc, la manière naturelle de se débarrasser du doryphore, il existe dans le commerce un produit 100% naturel, il n'est pas bio, mais il est naturel, qui s'appelle la terre de diatomée. C'est une terre, c'est une sorte de poudre, en fait, de minéraux concassés, donc très très fines, comme de la farine, et on va pulvériser ça sur nos plants de pommes de terre à l'aide de souffleurs. Il existe aussi des appareils pour souffler ces choses-là. Et en fait, cette poudre de minéral va se déposer sur le doryphore. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on touche des cailloux, en fait, on a les mains toutes rêches après. C'est très rugueux comme ça. Donc, cette poudre va faire la même chose sur le doryphore et en fait, va lui bloquer tout ce qui est articulation. Parce qu'en fait, ça n'arrivera plus à bouger et l'insecte va mourir parce qu'en fait, il n'a plus de moyen de se déplacer, donc de se nourrir. Donc voilà, ça, c'est un très, très bon produit qui est vraiment, vraiment, vraiment naturel. Concernant la prévention, il faut faire attention. On a un peu tendance chaque année, quand on a un potager, à mettre les mêmes cultures aux mêmes places. Et puis ça, malgré que le sol s'appauvrit, en fait, ça ne permet pas d'éradiquer certaines bestioles. Donc il faut vraiment faire attention de faire des petites rotations de culture. C'est clair qu'on n'a pas non plus 300 mètres carrés ou 500 mètres carrés de jardin. Même si on a un tout petit potager, attention de déplacer ces plantes chaque année, de faire vraiment un tournus pour faire un peu de prévention. Après, il n'existe plus vraiment de produits pour faire de la prévention parce qu'il n'y a plus aucun produit maintenant phytosanitaire qui est vendu au privé, qui est résiduel. Donc tout ce qu'on met ne peut pas être préventif, mais curatif.
On avait reçu une question de Sabine de Courandelin qui nous dit la chose suivante. J'ai semé du gazon il y a un mois et demi environ. Il a déjà bien grandi, environ 7-8 cm, mais à certains endroits, rien n'a poussé. J'ai ressemé sur ces endroits il y a 3 semaines, mais il ne se passe toujours rien. Pourquoi ? Que dois-je faire ? Et puis de plus, il n'y a pas que le gazon qui a poussé, mais également de la mauvaise herbe.
Alors, le gazon, c'est toujours un petit peu... C'est à la fois très simple à semer, puis parfois, ça peut être un vrai casse-tête selon ce qui se passe. Ça peut arriver, effectivement, qu'il y ait des endroits qui ne germent pas. Pourquoi ? Bon, je ne pense pas qu'il y ait rien du tout germé. Je pense plutôt que c'est joli tout partout, puis qu'à certaines places, c'est beaucoup plus éclairci. Donc, j'imagine que la situation est plutôt comme ça. Il peut y avoir plusieurs causes à ça. Il peut y avoir... la plus grande cause, ce sont les oiseaux. Mmh. En général, quand on sème, ben voilà, on voit que c'est bondé d'oiseaux, puis vu qu'ils aiment bien se tenir ensemble, les oiseaux, hein, c'est une protection pour eux de se mettre ensemble. Souvent, ils se mettent à la même place, ils commencent d'aller gratter, et puis ils mangent vraiment, vraiment beaucoup de graines, ce qui peut conduire à ces trous, si on veut bien, où on n'a pas de gazon. Mm-hmm. Si ça a été ressemé, et puis que ça n'a de nouveau pas poussé, il faut peut-être aussi se poser la question, est-ce que la graine n'est pas une graine de l'année passée éventuellement ? Ça, il faut faire très attention. Sous les paquets de graines qu'on achète dans le commerce, il y a toujours des dates. Pourquoi ? Parce que la graine reste quand même c'est vivant, en latence. Mais le problème qu'il y a, c'est que si on garde ça, parfois on achète, puis on se dit « ouais, ça fait juste une année que j'ai ça », puis si on regarde la date, en fait, c'est périmé depuis 5 ans. Donc il n'y a plus de valeur germinative. Donc ça peut être aussi un facteur.
C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément.
Non, tout à fait. Puis on a toujours l'impression qu'on a acheté ça il n'y a pas longtemps. Mais parfois, quand on regarde les dates, on est assez surpris. Et puis voilà, il faut peut-être attendre maintenant que toutes ces intempéries se calment. Et puis, ressemer, il existe aussi dans le commerce des rénovites, comme on appelle ça. C'est des paquets de gazon qui sont enrobés, c'est-à-dire que la graine, elle est entourée par une matière qui va se décomposer, mais ça évite que les oiseaux viennent se servir parce qu'ils ne voient pas la graine, donc ça ne les intéresse pas. Et puis en plus, la graine est protégée, elle va de toute façon germer. Donc c'est un petit peu plus cher que du gazon, mais pour mettre à certains endroits, c'est la bonne solution finalement.
Merci Cathy Racine, vous êtes avec nous jusqu'à 8h. Tout à l'heure, on va continuer de parler de gazon, mais plus encore, on attend toutes vos questions par téléphone au 0901 70 20 20 ou également par SMS au 939, vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question. Il y a également le formulaire internet comme a fait Marie-Louise. N'hésitez pas, sur notre site, vous trouvez sous l'onglet émissions, questions jardinières, ce formulaire.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
De retour dans les jardinières, comme tous les samedis, on prépare corps et esprit à une bonne journée au jardin. Et ce matin, c'est Cathy Racine, notre jardinière de Delémont, qui est avec nous jusqu'à 8h. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Et gardez bien en tête que Les Jardinières, c'est votre émission. Si vous avez des questions au sujet de vos plantes intérieures et extérieures, de vos arbustes, de vos fraisiers, de vos pelouses, n'hésitez pas à nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre professionnelle Cathy Racine. On lit également toutes vos questions reçues par SMS. Il vous suffit d'indiquer le mot jardin, un espace, puis votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939. Sur notre site, vous trouverez aussi un formulaire à remplir sous l'onglet « Émission questions aux jardinières ». Si vous choisissez de nous écrire, n'hésitez pas à nous fournir le plus de détails possible afin d'obtenir une réponse vraiment complète. Et bien sûr, pour tout complément, vous pouvez toujours appeler le standard au 0901 70 20 20.
Et tout à l'heure, on avait commencé à parler gazon, pelouse, on parlait d'endroits qui ne poussaient pas, enfin voilà, des graines qui pouvaient être périmées si vous les plantiez peut-être un petit peu trop tard. Sabine de Courandelin avait une deuxième partie à sa question, elle concernait la tonte. Est-ce qu'il faut attendre longtemps avant de tondre la première fois ou les premières fois? Katiou?
Alors, juste avant, il y en avait une autre, Steph.
J'en ai loupé une.
Oui, il n'y a pas que le gazon qui a poussé, mais malheureusement aussi
la mauvaise herbe. Alors, voilà. On va commencer peut-être par la mauvaise herbe. Voilà. Oui, effectivement, Katiou, bon merci. Sens. Heureusement que vous êtes là.
Oh, merci, pas de problème. Alors, en fait, la pousse de la mauvaise herbe, quand on sème un nouveau gazon, est complètement normale. On voit ça tout le temps, celui qui arrive à semer un gazon et ne pas avoir une seule mauvaise herbe qui pousse en même temps que sa levée de gazon, eh ben, il faut qu'il me téléphone tout de suite. C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on va retourner de la terre. Quand on va préparer le sol, on va retourner la terre. Et puis, dans cette terre, il peut y avoir des graines de mauvaise herbe qui sont en latence depuis plusieurs années. Ça peut aller jusqu'à 15 à 20 ans. Et le fait de brasser la terre dans laquelle ils se trouvent, en fait, vont les réveiller. Donc, ces mauvaises herbes, en général, elles ne posent aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'elles vont pousser en même temps que le gazon. Ça sera en général des mauvaises herbes avec des très, très grandes feuilles. Donc là, il peut y avoir le problème, effectivement, après, que ça fasse des trous, quand on en sera venu à bout. Mais ces mauvaises herbes-là, en fait, elles vont mourir à la première tonte. Ne les touchez pas, ne les tirez pas, faites votre première tonte. Ben là, on rejoint la deuxième question. On va faire la première tonte environ quand le gazon aura entre 6 et 10 cm. Il faut vraiment bien le laisser lever pour qu'il vienne assez fort. Si on le tonte trop tôt, en fait, on va tout arracher. Donc, entre 6 et 10 cm, là, on peut faire la première tonte. Quand c'est un sol sec, parce que sinon on va labourer aussi, évidemment, c'est encore pas très très solide tout ça. Et lors de cette première tonte, on va aussi tondre les mauvaises herbes qui vont déjà à 50% s'éliminer, et lors de la deuxième tonte, le reste va s'éliminer. Donc ne vous affolez pas s'il vient des grosses mauvaises herbes dans votre semis de gazon, c'est tout à fait normal.
Par rapport à la scarification, Katiou, il faut attendre combien de temps après avoir planté un gazon tout frais, plutôt combien d'années? Est-ce que si on plante un gazon, par exemple, cette année, l'année prochaine, on pourra le scarifier sans autre?
Ça, c'est à voir selon un petit peu visuellement ce qu'on trouve à la fin de l'hiver. Il faut faire attention de ne pas scarifier s'il n'y a pas besoin. Ça ne sert à rien de scarifier de toute manière chaque année son gazon. Quand on passe le scarificateur, l'action, elle est d'enlever ce qui est sec ou brun, ou alors beaucoup de la mousse. Mais après, de toute façon, on devra quand même enlever ça manuellement avec un râteau. Il faut bien dégager tout ça. Donc, si au printemps, votre gazon, de toutes les manières, il sera pas super vert les premiers temps, mais laissez passer un peu de temps, puis regardez ce qui se passe, parce qu'un gazon qui est sain n'a pas forcément puis qui est bien exposé aussi, ça dépend de l'exposition autour de la maison, n'a pas forcément besoin d'être scarifié. Donc là, c'est vraiment visuellement, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'hiver? Mais quand je parle de fin de l'hiver, attention, c'est pas janvier, hein. C'est mars, voire début avril, on est toujours beaucoup trop pressé. Laissons la nature un petit peu se mettre en route, puis après on peut regarder ce qui se passe.
On a Jacqueline de Courreau qui nous a écrit « J'ai une plante grasse d'intérieur, genre aéonium, on va y arriver, qui a très bien poussé et qui prend à présent toute la surface du pot. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour l'arroser, si c'est préférable de mettre de l'eau dans la soucoupe sous le pot ou de soulever les feuilles pour humidifier directement la terre. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner, Katiou Racine ?
Oui, bien sûr. Donc, évidemment, l'aéonium, c'est vraiment une plante grasse. Donc, qui dit plante grasse, dit besoin de très, très peu d'eau, vu qu'elles font leurs réserves dans leurs feuilles. Donc, bien évidemment, on ne mettra jamais de l'eau dans une soucoupe, dans quelque plante qui soit. Les plantes ont horreur d'avoir les pieds dans l'eau. Bien souvent, on les conduit à leur mort quand on leur fait ça, et encore moins sur une plante grasse. Et puis, il faut savoir quand même que ce genre de plantes grasses-là ont des racines qui sont très, très courtes, donc elles ne descendent pas très profondément dans la terre. Après, ça dépend de la grandeur du pot qu'elle a. Hein. Mmh. Mais si elle mettrait de l'eau par le dessous, ben bien évidemment, par capillarité, ça n'arrivera pas à prendre de l'eau. Donc là, on va juste faire tout l'inverse que ce qu'il faut. C'est une très bonne idée de juste soulever les plantes, parce qu'en fait ça fait comme des petites rosaces, si on veut bien, de soulever la plante et puis de mettre le nécessaire d'eau qu'il faut, c'est-à-dire très peu pour ce genre de plante. Et puis si après elle veut, soit elle peut laisser le pot à l'étroit comme ça, elle se place très bien dans des petits pots, comme ça la plante descendra le long du pot puis continuera de pousser, ou alors le mettra dans un plus gros pot, si, selon ce qu'elle a envie de faire.
On a reçu un SMS à l'instant qui nous dit « J'ai reçu un grand jasmin polyanthum en pot, puis-je le mettre dehors et éventuellement le planter au jardin ?»
Alors ça dépend un peu des variétés. On peut mettre des jasmins à l'extérieur, mais ça dépend vraiment des variétés. Donc là, le problème qu'il y a, c'est quand on achète dans les grandes surfaces, en général, il n'y a pas les variétés sur les étiquettes, il y a justement le nom latin. Alors, je ne peux pas trop répondre à cette question, je ne suis pas embêtée. On a des variétés de jasmin qui se plaisent très bien par chez nous. Il faut faire attention, parce que c'est quand même une plante qui est assez envahissante, donc il faut le mettre à une place où il peut déjà grimper, parce que c'est un grimpeur, hein. Enfin, faut le palisser, si on veut bien. Et puis, il faudrait pouvoir trouver la variété, mais voilà. À l'intérieur, de toutes les manières, ce n'est pas une plante qui va se plaire. C'est ni une plante verte, ni une plante d'extérieur. Donc, il faut vraiment, faudrait savoir la variété.
Donc, le mieux, c'est de toute façon de le mettre dehors. Mm-hmm. En tout cas, cette saison, on peut répondre donc à notre auditeur. Et peut-être pas forcément le mettre en terre.
Voilà, on pourrait le mettre dans un grand pot. Je ne sais pas, peut-être contre une terrasse, installer un treillis de manière à ce qu'on puisse le faire palisser. Mm-hmm. Et puis après, le rentrer à l'hiver, mais c'est toujours la même chose. Il faut des conditions spéciales en hiver pour pouvoir lui faire passer un hiver convenable.
Merci Cathy Racine pour toutes vos questions. Vous pouvez aussi, vous aussi, nous envoyer un SMS au 939. Vous tapez le mot jardin, un espace, puis votre question. Et il existe aussi le formulaire internet sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Les jardinières.
Nous avons un petit problème technique ce matin avec les téléphones, mais vous pouvez toujours nous envoyer un SMS pour poser toutes vos questions. Au 939, vous tapez le mot « jardin », un espace, puis votre question. Il y a également le formulaire internet sur notre site. Et on a reçu justement un SMS pour vous, Cathy Racine. « J'ai pulvérisé un mélange de vinaigre et d'eau sur des nids de fourmis sur mon gazon. À ces endroits, l'herbe a bien sûr jauni et ce n'est pas beau. Alors, est-ce que l'herbe va repousser ?»
Alors oui, bien sûr, le gazon va repousser. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste veiller si, je ne sais pas quelle est la taille de l'arrosage et la taille de la tache jaune. Si c'est vraiment des petites tailles, ben, c'est pas un problème. Mais si ça fait un cercle, je dis peut-être de 50, 60, 70 centimètres, il faut faire attention quand le gazon sera vraiment mort et puis qu'il n'y aura plus rien, juste faire attention qu'il ne vienne pas s'installer de la mauvaise herbe. Ça peut être le seul danger qui arrive. Donc si c'est des petites taches, c'est pas grave. Si c'est plus grand, bah faites attention de bien gratter puis de ressemer un petit peu sur ces endroits-là pour que le gazon prenne la place et non pas d'autres herbes indésirables.
Concernant toujours le vinaigre et l'eau, hein, je reviens peut-être là-dessus, c'est un bon truc alors pour éloigner les fourmis, selon vous, c'est quelque chose que vous conseilleriez
Alors,
c'est naturel.
Le vinaigre éloigne tout le monde. Hein. Si on vous arrose le vinaigre, vous partez en courant aussi.
Sauf la salade. Avec la salade, c'est très bon.
Voilà ouais, exactement.
C'est la seule qui aime le vinaigre.
Non, voilà. Alors, c'est vrai que c'est un bon répulsif pour beaucoup de choses. Et puis maintenant, on peut aussi faire du désherbant naturel avec du vinaigre et puis du sel. Voilà, il s'utilise beaucoup maintenant, il est très à la mode. C'est un produit qui est très sain, donc il n'y a pas de problème, on peut faire ça parce que toutes les manières, on pollue absolument rien du tout avec du vinaigre, justement. Mais par contre, il faut faire attention parce que c'est tellement acide, justement, suivant où on le déverse, ben, ça peut faire aussi des dégâts.
Une autre question, Cathy, de Christiane du Landron, cette fois-ci, qui nous parle de son lilas, qui a été taillé très sévèrement il y a 3 ans parce qu'il devenait très très grand, et puis chaque année, elle le retaille, mais il ne fleurit plus. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire ?
Alors le lilas, ben oui, effectivement, il n'aime pas être taillé chaque année parce que, ben en fait, on l'empêche de faire des hampes florales quand on le taille chaque année. Ce qu'il faut faire, vu que là, visiblement, elle l'a beaucoup rabattu parce qu'il était trop grand, il faut faire attention aussi quand on rabat trop une plante, le problème, c'est qu'on lui redonne de la force. Donc plus on coupe court, plus il va pousser fort. Donc voilà, il faut vraiment faire attention de ne pas laisser partir les plantes trop grandes, il faut les tailler avant qu'on remarque qu'elles sont trop hautes. Mais bon, parfois, on ne voit pas toujours. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut surtout pas le tailler chaque année. La taille qu'il faut faire, c'est en fait une taille d'entretien. C'est-à-dire qu'on va enlever à l'intérieur de ce lilas, en hiver, tout ce qui est branche morte, tout ce qui gêne le passage. Mais bien sûr, on ne va pas commencer de donner un petit coup de sécateur de 20 cm ou 30 cm sur chaque branche. Parce qu'en fait, on empêche la floraison. Donc voilà, il faut vraiment enlever ce qui est mort à l'intérieur, enlever les branches peut-être qui viennent trop larges si c'est sur un passage, mais le reste, il ne faut absolument pas le faire. Il faut le faire tous les 2-3 ans, et puis vraiment par petites touches. Hein. On enlève un petit peu, et pas des grosses tailles trop sévères.
Comment on peut faire s'il embête pour le passage? Est-ce qu'il y a moyen de l'attacher sans l'étouffer et sans le tailler du coup?
Le lilas, le problème qu'il y a, c'est qu'il est très très rigide. C'est un arbre qui a vraiment un bois qui est très rigide, et puis pour l'attacher, c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est vrai que déjà, à la plantation, attention, quand on a une nouvelle maison ou qu'on a un endroit où on voudrait planter, des fois, on ne se rend pas compte de la taille des arbres quand ils seront adultes. Donc ça, c'est la première chose à aller voir sur Internet, qui est une excellente plateforme de renseignement, d'aller voir selon justement la variété qu'on prend, parce que les lilas, il y en a aussi plein de variétés, de se dire, ben voilà, je vais regarder, et puis tiens, celui-là, il peut venir jusqu'à 5 mètres, il peut venir jusqu'à 2 mètres, et de prendre la plante qui correspond forcément à l'endroit où on veut le mettre. Donc ça commence par là. Et puis après, des fois, on se laisse un peu dépasser, alors là, après, oui, on peut soit le déplacer carrément, ou bien alors le tailler, mais ça implique ce genre de problème après.
Merci Katio. On a une question d'Emmanuel de Bienne. Peut-on mettre des orchidées en terre sous une serre?
Non, pas du tout. Parce que l'orchidée ne pousse pas en terre dans la nature. Elle, c'est une plante parasite. Donc si on la met en terre, en fait, on va juste... c'est comme si nous, ben, on nous emballait dans du plastique et puis qu'on nous mettait sous une serre, quoi. Donc voilà, pas du tout. On peut les mettre sous serre, c'est l'idéal parce qu'elles ont besoin d'humidité. Donc là, on pourra créer un climat tropical. Mais par contre, on devra les débarrasser de leur peau. Et puis fixer des supports dans la serre où on vient attacher ces orchidées avec des fils de fer et où les racines seront en fait nues, parce que dans la nature elles poussent comme ça, elles ont leur racine qui est nue, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les pots, quand on les a à la maison, tout d'un coup on se dit, oh là là, le pot est trop petit, toutes les racines sortent. Non, c'est pas ça, c'est qu'elles reprennent juste leur droit de la nature. Donc s'il veut faire ça, il peut très bien le faire, mais il faut que la serre soit à la même température toute l'année, avec un pourcentage d'humidité très élevé, et que les plantes soient les racines nues.
On a reçu une question de Gérard de Beuvet. Est-il vrai que le Diefenbachia est toxique pour les animaux ?
Oui, le Diefenbachia est une plante verte qu'on trouve très très couramment dans les grandes surfaces. Il est non seulement irritant de par ses feuilles, et puis il faut faire attention parce que la sève qu'il y a à l'intérieur est vraiment très très toxique. Il faut faire attention que les animaux ne mâchouillent pas ces plantes, ça c'est important. Et puis surtout les chats, ils vont souvent se traîner contre ces plantes, et puis après, bah, vu qu'ils se lèchent beaucoup le pelage pendant la journée, bah, ils ingèrent en fait cette sève. Donc vraiment le Diefenbachia, si on l'a, attention, quand il y a des chats, il faut oublier, puis quand il y a des chiens, bah, le mettre plutôt en hauteur. Puis bien entendu les enfants aussi, hein. Attention, c'est une plante qui est vraiment toxique, donc il faut faire attention. On ne peut pas en mourir, mais par contre, ça donne des très grands maux d'estomac, des diarrhées, enfin, c'est pas super, quoi.
J'ai des plantes tomates cerises et j'ai entendu dire qu'il était bien de les tailler pour éviter les maladies. Est-ce exact? Et si oui, comment et à quel moment le faire? C'est Jean-Marie Desbreleux.
Non, on va pas tailler les plantes tomates pour éviter les maladies. Ce qu'on va faire déjà, la première chose pour éviter les maladies sur les tomates, c'est de ne pas les mettre à la pluie. En fait, la tomate n'aime pas du tout la pluie. C'est à la base une plante qui pousse dans les pays où il fait chaud. Donc chez nous, elle pousse. On a la chance qu'elle pousse, mais elle a besoin de certaines conditions. Donc la première chose qu'on va faire, c'est la mettre à l'abri. Et ensuite, on peut pincer les plantons. C'est-à-dire que quand on achète un planton de tomate, quel qu'il soit, cerise ou pas, c'est égal. En fait, cette plante, elle aura une tige centrale quand on l'achète, et puis quand on le met en pot ou en pleine terre, ben, elle va commencer à faire en fait un arbuste. Et puis ça, c'est un problème, parce que chez nous, il y aura plein de tomates qui vont se développer là-dessus, mais en fait, la saison n'étant pas assez longue, on va arriver au mois d'août, septembre, on aura plein de tomates, puis finalement, elles n'auront pas mûri. Donc voilà, c'est bien dommage. Donc, quand on a cette plante, c'est un peu difficile d'expliquer ça sans le montrer, mais on a la tige centrale, et puis à chaque ramification de feuilles, il va venir de nouveau une nouvelle tige, et ça, il faut faire attention de les casser à chaque fois. On ne va pas les couper, on va simplement les casser. Et puis en fait, finalement, on aura après un planton qui fera peut-être 1 mètre ou 1,50 mètre selon où il est posé. Et il y aura la tige centrale où c'est qu'il y aura toutes les tomates qui seront venues dessus. Et puis là, elles auront le temps de mûrir parce qu'elles ne seront pas en surpopulation en fait.
Merci Katio Racine. Il va être 8h dans quelques petites secondes, enfin quelques petites minutes plutôt. Vous avez un petit conseil de quoi faire au jardin en ce moment?
Il faut enlever la mauvaise herbe parce que là, elle pousse à vitesse grand V, hein, parce qu'il fait beaucoup de pluie, il fait quand même assez chaud, il fait lourd. Donc la mauvaise herbe est heureuse par ses climats. Mm-hmm. Donc c'est maintenant le principal travail à faire, c'est d'enlever cette mauvaise herbe.
Eh bien, les jardinières, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez profiter de l'heure matinale pour préparer vos outils, vos pots et vos fleurs à planter. Merci beaucoup, Cathy Racine, d'avoir été avec nous. Vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, je voulais vous dire que c'était ma dernière émission aujourd'hui parce que j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Et puis malheureusement, je ne peux plus suivre tout partout. Alors je remercie beaucoup tous ceux qui ont posé des questions et puis ceux qui m'ont accordé leur confiance.
Merci en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous avez été parfaite avec vos connaissances. On vous souhaite un excellent été et belle journée.
Merci, pareillement.
Bon week-end. Et bien sûr, les jardinières reviennent la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à nous envoyer déjà maintenant toutes vos questions par SMS au 939 ou grâce au formulaire internet. Bon week-end, à la semaine prochaine.
7h, 8h, les jardinières.